auditeurs, chères auditrices de Med Résistance, Radio Galère 88.4 et Radio Mono Chalon Champagne, nous nous retrouvons, donc c'est la rentrée pour nous, puisqu'il n'y a pas eu d'émission au mois de septembre, on reprend après une interruption depuis fin juillet. Je vais vous faire découvrir aujourd'hui, et c'est assez rare qu'on le fasse, puisqu'on a parlé de beaucoup de choses sur Med Résistance, on a parlé mouvement associatif, on a parlé politique, sport, musique, peinture, et puis nous avons beaucoup parlé de géopolitique également, et d'économie. Et aujourd'hui, on va parler de littérature. Et je vais vous faire découvrir un auteur qui est contemporain, qui mérite vraiment d'être connu. J'espère qu'il va avoir un peu plus, il va avoir du succès, un regain de succès à nouveau après l'émission. Je vous dirai à la fin de l'émission comment on peut le retrouver. Je vous donnerai ses coordonnées si vous voulez lire ses livres. Aujourd'hui, on va présenter un premier livre qui se distingue des autres ouvrages qu'il a rédigés parce que celui-ci est un petit peu particulier. On va vous expliquer pourquoi pendant l'émission. Il s'agit du livre « Totem misère ». Donc, et notre auteur est Jean-Pierre Elstroffer, qui habite dans la périphérie de Reims. Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour Nora, bonjour à tous vos auditeurs.
Alors, Jean-Pierre, voilà, je vous ai interpellé parce que j'ai trouvé que vous aviez une démarche très originale. Ça faisait un moment que j'allais aux Halles du Boulingrin le samedi matin pour faire mon marché. Et que je me rendais compte qu'à chaque fois, je vous trouvais devant les Halles avec votre étal. Et sur cet étal, il n'y avait pas des fruits et des légumes, ni du vin, ni de la viande ou du poisson. Il y avait vos livres. Alors je me suis un peu intéressée, j'ai regardé, tous les livres étaient signés de vous, avec une mise en page originale aux éditions Victoire Gaspard. Et je trouvais que votre étal était assez original, avec des petits objets qui rappelaient peut-être certainement des choses qui ont un rapport avec votre vie les aventures que vous avez pu avoir dans votre vie. Et j'ai eu envie de m'intéresser à vos livres, alors j'ai commencé à lire un résumé, puis j'ai lu « Totem misère », le premier livre de vous que j'ai lu et qui m'a beaucoup déroutée, j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé que le style était particulier et avec du talent. Et donc j'ai voulu faire une émission sur ce livre-là et je continuerai avec d'autres romans parce que ce livre-là est un peu plus noir que les autres. On en a déjà discuté ensemble avec Jean-Pierre et c'est un livre qui met en avant la misère du monde, comme son nom l'indique, et qui fait redondance avec beaucoup de perles de la littérature française. Donc, d'abord, Monsieur Elstroffer, je vais vous demander de vous présenter pour qu'on sache, que nos auditeurs comprennent, avant qu'on parle de Totem misère, de manière plus approfondie, qui vous êtes et comment vous avez commencé à écrire.
Très bien. Ben, effectivement, je m'appelle Jean-Pierre Elstroffer, je suis rémois. Je suis né à Reims et j'habite depuis maintenant une bonne quarantaine d'années un petit village à quelques kilomètres de Reims qui s'appelle Les Méneux. Donc mon parcours, je suis issu d'une fratrie de 6 enfants et je suis le seul garçon. J'ai 5 sœurs. Voilà. Et je suis né en 1950, donc aujourd'hui c'est pas très difficile à calculer, j'ai 75 ans. Quant à mon parcours de littérature, j'ai eu une vie professionnelle, je dirais, plutôt bien remplie. J'ai fait une formation initiale de technicien du bâtiment. Et globalement, on va dire que mon parcours professionnel s'est déroulé dans le monde du bâtiment, particulièrement dans la fabrication des peintures du bâtiment et des peintures techniques, anti-corrosion, peintures sous-marines, etc. Donc j'avais des fonctions de directeur commercial à l'intérieur d'un groupe. Et depuis maintenant les années 2011, je suis en retraite. Et c'est, je l'avoue, la retraite qui m'a surtout donné le temps nécessaire, parce que l'écriture est un travail de solitaire, mais aussi un travail qui demande beaucoup de temps. Et c'est donc la retraite qui m'aura permis de mettre, je dirais, en œuvre ce que j'avais comme ambition depuis très longtemps, d'écrire mes livres, de les éditer de les démontrer auprès d'un public et de rencontrer le lecteur pour pouvoir les faire profiter au maximum de ce qui m'a animé pendant toute cette période.
Très bien. Ben, l'écriture, ce n'est pas quelque chose d'anodin qui vient comme ça. Quand est-ce que vous avez commencé à écrire vos premiers textes, on va dire ?
Alors, j'ai toujours aimé la lecture. Donc, j'ai toujours beaucoup lu, les classiques, les modernes, mes grands préférés. J'adore Albert Camus, mais j'ai aussi adoré Céline, mais même des auteurs beaucoup plus contemporains. Je pense à des gens comme Yves Navarre, ou il y a un jeune auteur que j'adore actuellement, c'est Kopfen, Oscar Kopfen, qui est vraiment quelqu'un de très très bien et qui écrit de très très belles choses. Donc ça, ce sont mes goûts en lecture, et je dirais qu'arrivé à la trentaine, ouais, j'avais 30, 35 ans, j'étais un jeune marié, puisque on s'est marié en 1978, j'ai commencé à noircir un peu le papier. Mais bon, il faut quand même du temps, je l'ai déjà dit, et en réalité, à travers une discipline malgré tout, j'ai quand même réussi à écrire quelques bouquins quand j'étais en activité professionnelle, mais c'est surtout la retraite qui m'aura permis de mettre tout ça à plat et tout ça en œuvre.
Oui, il faut avoir le temps. Et justement, l'écriture de roman, c'est quand même un grand chantier, quoi. Il y a l'avant, il y a le pendant, il y a l'après. Je me souviens, enfin, c'est pas du tout dans votre style. C'est vrai que vous, je vous comparerais davantage à des auteurs qui vous habitent, visiblement. Je l'ai vu tout de suite en lisant votre livre. Et les auteurs dont vous venez de parler, que vous appréciez quand vous étiez plus jeune, et que vous appréciez toujours, sont des auteurs qu'on retrouve un peu dans vos livres. Vous êtes comme habité par ces auteurs. Oui, Céline, il y a Proust aussi, quelque part. Hein. Sous certains aspects, il y a aussi un petit peu... bien sûr, Camus est très présent aussi. Mais il y en a encore d'autres qui sont plus contemporains aussi. On les retrouve, ce sont des auteurs qui vous ont habité. Mais je vais quand même vous parler d'Émile Zola, non pas pour comparer votre style au sien, qui le sien est davantage accrocheur. On sent qu'il est toujours en train de faire du merchandising avec son écriture pour attirer le chaland, en quelque sorte. Alors que d'autres auteurs dont vous vous inspirez, vous, c'est pas du tout votre Zola, c'est pas votre style. Eux préfèrent se laisser complètement aller en se disant « c'est pas grave si on ne lit pas ». Enfin, pour Émile Zola, on sentait qu'il était un peu accrocheur. Bon, bref, donc c'est pour tout ça pour dire que c'est pas du tout votre style, Émile Zola, mais quand même, il y a des études qui ont été faites qui... en fait, on arrive très bien à découper l'architecture d'un roman de Zola, et ça montre bien que dans un roman, il y a beaucoup de travail en amont, en prévision de ce qu'on va faire, de la manière dont on va faire avancer l'histoire. Et puis, chez Zola, c'est caricatural, c'est pour ça que je parle de lui, parce que ça se comptait au nombre de pages, avec au milieu du roman un point culminant, et puis après on redescendait. Et si je dis tout ça, c'est parce que un roman, c'est un chantier qui est énorme. Quand est-ce que vous avez commencé à envisager votre premier roman, et quel était ce premier roman? Et quand est-ce qu'il a été pensé, ce premier roman?
Alors, le tout premier roman, j'ose même pas en parler, parce que je devais avoir peut-être 20 ou 25 ans. Bon, c'était un roman qui s'appelait Les Chazals, donc une saga un peu familiale, et ça c'est tombé dans les oubliettes. Non, l'écriture d'un roman, si on reste sur l'exemple de Totem Misère, il n'y a pas vraiment de méthode pour écrire. Il faut avoir sa méthode. Moi, ma méthode, c'est de partir d'un fait de société, en général, et sur un fait de société, de construire une histoire. Alors, qu'il ne soit pas nécessairement une histoire fantastique, j'ai même envie de dire, au contraire, je souhaite que l'histoire soit la plus réaliste possible, même si elle a parfois un caractère un petit peu noir, mais elle reste malgré tout d'une certaine réalité, d'une certaine faisabilité, pourrait-on dire. Donc, dans le cas de Totem Misère, j'ai été amené, au cours de ma vie, dans différentes actions de bénévolat, parfois auprès de certaines associations, j'ai été amené à rencontrer certaines personnes dans des situations de vie en elles-mêmes relativement délicates. J'ai eu moi aussi, personnellement, je dirais, une période qu'on pourrait qualifier de vache maigre, voilà, même de grandes difficultés. Et je me suis aperçu d'une chose à travers toutes ces expériences personnelles, ou bien en tant qu'observateur des autres, c'est que contrairement à notre société d'aujourd'hui n'a qu'une idée en tête, à l'échelle de la planète presque, c'est de rentrer dans un phénomène de standard. Mais je me suis aperçu que la misère était totalement en dehors des standards. La misère n'a pas de standard. La misère des uns est supportable par lui-même alors qu'elle est totalement insupportable pour les autres. Alors je pourrais m'amuser à décrire certaines situations, mais même des situations d'actualité d'aujourd'hui, je ferai qu'une parenthèse en pensant à la bande de Gaza, où l'on imagine le pire d'un côté et on laisse le pire s'établir sans autre forme, même pas de procès je dirais, sans autre forme de commentaire ou simplement de compassion. Donc pour en revenir à mon bouquin « Totem misère », ben, le point de départ, ça a été ça. C'est de dire, la misère, ok, elle est là. Je ne dis pas qu'il faut vouloir la supprimer, c'est une utopie absolue. Mais encore faut-il savoir la regarder et la comprendre. Et éventuellement, si possible, la partager. Donc derrière ça, il faut construire une histoire. Ben, oui, l'histoire, on la construit avec des personnages, avec des fiches personnages, avec l'étude d'un champ lexical, à travers une découpe des chapitres, à travers une gradation dans l'intrigue. On parlait tout de suite là d'Émile Zola. Bon, est-ce qu'il faut mettre une acmé à tel endroit ou à tel autre? Bon, voilà, ça c'est... Chaque roman a été à sa propre histoire. On pourrait presque écrire un livre sur l'écriture d'un livre. Mais voilà un petit peu comment moi je travaille.
Très bien. Quand même, avec Émile Zola, je peux pas vous comparer. Votre style, vous êtes n'est pas du tout celui d'Émile Zola, c'est pas du tout le même genre. Mais quand même, il y a quelque chose, et là, ça va me permettre de faire la transition avec Totem Misère, qui est un livre déroutant, hein, qui, moi, ne m'a pas laissé indifférente. Il y a quand même du Thérèse Raquin un peu.
Pardon ?
Dans votre livre, il y a quand même du Thérèse Raquin, qui est un roman d'Émile Zola, où Thérèse Raquin, c'est une femme qui entraîne son homme dans le meurtre.
Oui, je vois votre cheminement, Nora. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça si on était un mauvais avocat des personnages qu'il y a dans le livre Totem Misère.
D'accord. On va les défendre. Alors... J'explique à nos auditeurs, Totem Misère, c'est d'abord l'histoire d'un sans domicile fixe qui a eu une vie pas drôle et qui raconte ce qu'il voit. Donc jusqu'ici, il était dans la rue. Alors être dans la rue, c'est pas une chose facile. Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez, si vous voulez parler, je vais juste dire, quelqu'un qui est dans la rue, il ne peut pas se poser et avoir un bon équilibre mental parce qu'il n'a pas l'essentiel. Il est toujours sur le qui-vive. La rue, c'est dangereux. On peut se prendre un coup de couteau, on peut se faire piquer toutes ses affaires. On a froid l'hiver et on n'est pas sûr de si on va manger le soir. On peut pas se laver.
Oui, tout à fait. Non, mais bon, c'est pas une nouveauté, ça. Vous avez un fameux psychologue qui s'appelle Maslow, qui a eu la bonne idée, peut-être, on peut dire, de définir les besoins de l'individu, les besoins de l'humanité, d'une manière tout à fait globale et générale, à travers la notion d'une pyramide. Alors, plus la pyramide est large, plus le nombre de personnes est important, et plus on monte vers le sommet de la pyramide, plus on arrive dans une forme d'élitisme. Tout au bas de la pyramide, en ce qui concerne les individus, on trouve ce qu'on appelle les besoins vitaux. Pour vivre, d'après Maslow, il faut être capable de se nourrir, capable de respirer, capable de se reposer, capable de s'abriter. On ne peut pas vivre dehors, on n'est pas tout à fait comparable aux vaches solaires ou autres bovins. Et donc ça, ce sont les besoins vitaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le SDF, il est en dessous des besoins vitaux. Et alors là, la gradation est intéressante à regarder, c'est que cette gradation, on pourrait s'imaginer qu'il y a une forme d'acclimatation que l'individu a mis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans avant de s'habituer à la rue. Alors que c'est la plupart du temps totalement faux. Et que la cassure est tellement brutale, tellement spontanée, que lorsqu'on dit qu'un SDF vit dans la rue, Bah, il y a des mots qu'on oublie, et il y a des mots qu'on met en trop. Il faut retirer le morue, pour lui ça ne veut plus rien dire, ok? Pour nous c'est un décor, pour nous c'est un lieu précis, pour lui ce n'est plus rien. Et quand on dit vivre, bah, pour lui c'est avant tout survivre. Donc un SDF, il est simplement en survie, voilà.
Voilà, quand on est dans la survie, on ne peut pas construire, c'est très dur. Alors, voilà. Alors, c'est ce que vous montrez dans votre livre. Alors, il faut se mettre à la place du SDF en question, qui s'appelle Cano, C-A-N-O. D'où il vient ce nom?
Alors, mais ce nom, il vient de l'auteur. C'est un nom qui est purement inventé, pourrait-on croire. Si on lit le bouquin, on comprend d'ailleurs l'explication qui est donnée pour ce surnom de Cano. Alors, je peux livrer quand même à vos auditeurs une toute petite précision. Moi, j'adore dans mes écritures mettre un peu, non pas des mystères, mais un peu des écritures à tiroir. Alors Cano a été dans l'écriture du bouquin, correspond au fameux jeu de construction Mécano. Voilà. Alors c'est un surnom qui vient de ce jeu de construction Mécano, qui était probablement d'ailleurs, quand Cano était enfant, probablement le seul cadeau qu'il ait vraiment eu. Et donc c'était son jouet ultime, et d'où le surnom de Cano. Ça, c'est ce qu'on lit dans le livre. Mais en réalité, si on creuse un peu, Cano en latin, ça veut dire chanter. Mais Cano en latin, ça veut dire aussi crier, ça veut dire affirmer, faire entendre sa voix. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi ce surnom de Cano, pour que Cano soit une sorte d'ambassadeur, une sorte de porte-voix, et qu'il puisse parler haut et fort, sous un intitulé qui est celui de la misère, bien sûr, mais celui, d'une manière beaucoup plus générale, celui des hommes. Quant au vrai prénom de Cano, parce que Cano n'est qu'un surnom, son vrai prénom, c'est Lucien. Bah, c'est un prénom relativement commun, mais là aussi, il y a un petit tiroir. Il faut savoir que Lucien, c'était le prénom du père de Monsieur Albert Camus. Lucien Camus.
D'accord. Vous êtes obsédé par Albert Camus au point, j'ai bien fait, en fait, je me suis fait bien voir, de comparer certains aspects de votre roman à l'étranger d'Albert Camus. Je ne savais pas. Vous avez l'air beaucoup apprécié cet auteur, au point de donner à votre héros le nom du père d'Albert Camus.
Oui, j'adore Albert Camus. Bon, alors, même si l'écriture, j'ai pas la prétention d'écrire comme Albert Camus, mais j'aime beaucoup Albert Camus, tout simplement parce que Camus, quand on lit ses bouquins, ils ont un petit côté intemporel. Donc, on vient parler de L'étranger. Bon, L'étranger est un bouquin qui date de 1953, il y a plus de 70 ans. Et L'étranger est d'une actualité absolument remarquable et totalement moderne. Voilà, les bouquins de Camus ne vieillissent pas. La deuxième chose que je dirais sur Albert Camus, d'une manière très générale, c'est qu'Albert Camus, contrairement à beaucoup d'auteurs de cette époque, des années d'avant et d'après-guerre, Albert Camus parle avant tout aux hommes, alors que beaucoup d'auteurs de l'époque se parlaient à eux-mêmes. Et c'est là la grande différence que j'ai toujours mesurée chez Camus.
Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Votre approche est très pertinente. C'est le seul qui est tenu tête au roi, c'est-à-dire à Jean-Paul Sartre, sur la question de l'existentialisme et notamment et aussi des actions de Staline en Ukraine.
Eh oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui. Eh oui, parce que là, alors on va quand même pas non plus être méchant à ce point et dire que l'existentialisme n'était rien. Ça a été une approche absolument remarquable de la part de Jean-Paul Sartre. Mais Camus a su lui répondre, parce que dans ce qu'il traite, à relire une fois de plus L'étranger, bon, avec sa théorie de l'absurde, on mesure bien. Et là, je reviens sur ce que je viens de dire il y a quelques instants. regardons la société d'aujourd'hui, en 2025, et essayons d'y mettre là-dedans une forme de définition de l'absurdité, et vous verrez qu'il y a beaucoup de points communs, en fin de compte, qui ressemblent. Alors maintenant, est-ce que si on fait un parallèle, un comparatif avec l'existentialisme, est-ce que beaucoup de gens se sentent réellement dans une notion d'existentialisme ? Peut-être pas, dans une notion d'absurdité, probablement.
Exactement, vous avez raison. Il a mieux.
C'est comme vous, vous faites pareil, d'ailleurs. Ça ne m'étonne pas du tout que vous l'ayez autant lu et que pour vous, il soit aussi important. Il montre, en fait, que la seule réalité n'est que subjective, qu'il n'y a pas de vérité objective. Et donc, la situation de Cano, et on verra plus tard, de la femme qu'il fréquente, et ce qu'il arrive à la fin, on n'en parle pas tout de suite, hein, on laisse le suspense pour nos auditeurs, c'est une situation parmi d'autres qui fait une partie du domaine des possibles, même si elle est absurde, mais c'est une situation à laquelle on est arrivé. Là où Jean-Paul Sartre, en homme resté enfant, cherchait absolument à trouver une vérité absolue derrière chaque situation et chaque aspect de l'évolution de la société ou de la vie, Camus remet à sa place en disant le sens que tu cherches n'a aucun sens finalement. C'est ce que je pense. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu la leçon que vous donnez, puisque il y a quelque part beaucoup d'absurdité dans la situation de Cano. D'abord, sa situation de SDF, et ensuite le drame de la fin. Et c'est de l'absurde.
Oui, bien sûr, il y a cette notion d'absurdité, mais qui n'est pas propre à cet individu. Aujourd'hui, la société a ce côté absurde. Mais il y a aussi, en même temps, chez Cano et dans l'écriture, il faut comprendre que Cano, pour vos auditeurs, Cano est le narrateur de ce livre. C'est lui qui parle. Et donc, naturellement, lorsqu'on est SDF, vous l'avez compris, et qu'on se met à écrire son histoire, et Dieu sait si l'histoire que Cano raconte est d'une importance essentielle, on ne peut pas écrire comme Chateaubriand. Il va y avoir nécessairement, je ne dis pas un apprentissage, mais tout au moins un guide, un schéma qui doit se mettre en place, une gradation dans l'écriture propre à ce monsieur, propre à Cano, pour amener justement le lecteur vers ce que le lecteur refuserait dès le départ si dans les premières pages on lui donnait le contenu des dernières. Donc il va falloir y aller pour Cano d'une certaine manière. Donc il va prendre parfois des chemins un petit peu détournés, des chemins qui lui appartiennent de sa culture qu'il a, une culture de la rue, mais aussi une culture universitaire, et pour amener le lecteur petit à petit à comprendre la situation dans laquelle il est, dans laquelle il a été et dans laquelle il sera, dans laquelle il va évoluer. Alors ça passe à travers parfois des schémas relativement simples. Cano vous dira qu'il a vu une émission à la télévision, lui qui ne la regarde jamais par définition, et que cette émission lui a fait évoquer certains souvenirs ou certaines croyances ou certaines imaginations, pour aller comme ça de chemin en chemin ou de chapitre en chapitre vers une finalité qui restera malgré tout relativement spectaculaire, tout au moins pour le lecteur, pas nécessairement pour Cano. Je ne suis pas sûr que Cano ait été surpris par ce qui se passe à la fin.
Oui, alors on n'arrête pas, je m'excuse envers le lecteur, parce qu'on n'arrête pas de discuter de ce qui se passe à la fin. Mais qu'est-ce qui peut bien se passer à la fin de ce roman ? On va attendre un petit peu, on va commencer par le début et par expliquer que Cano, au début du roman, comme je vous l'expliquais, c'est quelqu'un qui est dans une situation de précarité et qui est dans la rue et qui donc ne peut pas se poser, on va dire entre guillemets, il ne peut pas penser. Ses pensées sont toujours des fuites en avant, il n'y a pas de construction puisque, matériellement parlant, il n'a aucune sécurité et pas de bien-être. Et donc forcément, dans ces cas-là, on est dans la survie. Quand on est dans la survie, la pensée est très très réduite. Et qu'est-ce qui va arriver ensuite ? Ça ne veut pas dire que les gens qui sont dans cette situation ne sont pas intelligents et qu'ils ne pensent pas. Mais c'est très difficile. Et qu'est-ce qui va arriver ensuite? Eh bien, il y a quelque chose qui va faire une rupture avec la vie de Cano qui est dans la rue. Il va se fêler une cheville, non? Ou une jambe? Se casser une jambe?
Oui, tout simplement, Cano est un routard, voilà. Bon, il met toutes les définitions qu'on veut, SDF, il se déplace comme il le peut, et bien souvent à pied, et il se fait bousculer à un carrefour avec un autobus qui lui casse la jambe d'un côté et qui lui bousille le genou de l'autre. Alors naturellement, pour quelqu'un qui fait la route, ça devient un handicap assez formel, et c'est là le point de bascule en réalité. Voilà, c'est le point de bascule par-delà. Tout simplement parce qu'il va se retrouver dans une certaine immobilité. Il va surtout se retrouver dans des lieux. On ne peut pas dire qu'il ne les connaît pas. Bon, on ne va pas non plus tout dévoiler, mais l'hôpital, voilà, c'est des choses qu'il connaît et qu'il a déjà fréquentées. Mais il va surtout se retrouver dans un lieu assez formel, voire même informel, qui est ce qu'on appelle le moyen séjour. Le moyen séjour, c'est là où on met les personnes qui ont besoin d'une assistance relativement soutenue et qui ne peuvent pas avoir de soins à domicile. Et naturellement, pour un SDF, c'est presque l'endroit rêvé. Voilà. Il y a une petite parenthèse que je voudrais peut-être quand même faire sur ce bouquin avant d'aller plus loin. C'est peut-être sur le titre. Le titre du bouquin, c'est « Totem misère ». Alors, un totem, c'est quoi un totem? Un totem, c'est un point de repère qui a très souvent été utilisé dans les différentes civilisations, sociétés, clans ou tribus, et c'est une forme d'identification, un totem. Mais en même temps, alors on pourrait dire, si on prend le totem comme étant une identification, on pourrait remplacer ce mot totem par une identification de la misère. Bon, ça ne serait pas un sujet très, très intéressant, c'est un sujet relativement commun. L'identification de la misère, on la connaît bien, il y a des statistiques d'ailleurs très formelles à l'échelle de l'État sur ce genre de problématiques. Mais en même temps, un totem, c'est aussi un protecteur. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la misère, pour certaines personnes, peut être une sorte de rempart, voilà. Et qu'à force d'être totalement isolé de la société, on s'enferme dans une espèce de rempart, dans une espèce de cuirasse qui est constituée de très peu de choses. La plupart du temps, un sac à dos, un sac de couchage, et encore, pas toujours, une couche de crasse, et ça tient chaud, deux ou trois haillons, et puis surtout, toute une ambiance de copains, d'amis, ou parfois d'ailleurs d'amis qui sont pas vraiment des amis, mais avec qui il faut bien composer et vivre, et tout ça constitue aussi une forme de totem. Voilà ce que je voulais dire rapidement sur le titre.
Merci beaucoup. La misère, c'est un nouveau totem. Et tous ces gens qu'on rencontre quand on marche dans la rue et qui dorment dehors, alors qu'on passe à côté sans presque les voir, finalement, sont les gardiens de notre société. C'est ce que vous voulez dire?
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, on peut peut-être essayer d'avancer un peu dans le...
Alors... Cano se retrouve donc dans un service de moyen séjour, et donc il se retrouve avec dans une situation de confort relatif, si l'on peut dire, parce qu'autour de lui, là, c'est quand même un hôpital avec d'autres gens qui sont malades et des gens en précarité, qui arrivent avec leur odeur et avec leur vécu aussi. Hein, c'est pas non plus le grand luxe, mais il a un lit, un toit et un repas régulier. Et des gens dans son entourage qui sont relativement plus ou moins bienveillants. C'est beaucoup mieux que dans la rue. Il fait pas froid. Et donc, il y a toute une partie du moment où Cano décrit ce qu'il voit au moyen séjour, où là encore, il y a une espèce de noirceur qui est très importante et une relative tristesse, quelque chose de sombre, puisque ce qu'il voit autour de lui, c'est toujours de la misère. Il n'a pas quitté la rue, mais il est toujours dans la misère. Il regarde autour de lui, qu'est-ce qu'il voit? Des gens qui sont aussi en difficulté. Une femme et sa fille qui se sont retrouvées dans le service moyen séjour. La première faisant se prostituer, la deuxième. Voilà, il voit des choses qui sont pas très... Alors, il regarde Arte, et qu'est-ce qu'il voit à Arte? Eh bien, il voit... d'autres totems misère, mais dans un autre coin du monde, en Russie, je crois, où on est dans une espèce de camp, ou dans une prison, je crois, où l'on voit des gens qui sont dans une situation de précarité et de dégradation des conditions humaines, et vraiment déplorable. Alors, la question que j'allais vous poser, c'est ce qui m'a fait comparer un peu quelques passages de votre roman à Alexandre Solzhenitsyn, notamment dans le livre, dans le roman Le pavillon des cancéreux. Pourquoi la Russie ? Est-ce que vous avez lu Solzhenitsyn ? Parce que je voulais savoir si vous l'aviez lu, si vous l'aviez apprécié.
Alors oui, j'ai lu Solzhenitsyn, ouais. Et c'est même assez surprenant parce que je l'ai relu il y a encore pas très très longtemps. Non pas le pavillon des cancéreux, mais je cherchais une information, j'étais bien persuadé de le trouver dans l'archipel du Goulag. Je n'ai jamais trouvé, mais j'ai ouvert le bouquin, j'ai eu une page, deux pages, dix pages, et j'ai décidé de tout reprendre. Donc pour en venir à Cano, oui effectivement, mais il y a là aussi, je dirais à l'échelle de Cano, quand il découvre cette société parallèle, on pourrait dire. Alors pourquoi la Russie ? Ben justement pour y créer une notion de parallèle. Okay, la Russie est avant tout un pays relativement éloigné, un pays où on peut imaginer que les choses sont tout à fait différentes. Et comme ces choses sont différentes, elles seront sans doute pour le commun des mortels que nous sommes situées dans une notion d'indifférence. Et donc Cano, qui lui n'est pas un habitué de ce genre de reportage, découvre effectivement dans cette dimension des images qui le désolent, qui le désolent d'autant plus qu'il les compare à ce que lui connaît, à ce que lui vit au quotidien. Et l'autre approche de tout ça, c'est que Cano a peut-être aussi une tendance à vouloir déformer les choses. Il est dans l'incapacité de déformer son quotidien. Son quotidien, c'est rien. Donc il a la capacité, tout simplement, de déformer le quotidien des autres. Donc il imagine certaines situations. Mais en réalité, quand Cano fait ça, en tant que narrateur de ce livre, de ce témoignage, Cano est en train de préparer le lecteur à ce qui va suivre, parce que ça ne va pas s'arrêter uniquement à la vie d'un SDF avec une jambe cassée dans un hôpital et qui regarde la télévision. Il y a bien sûr autre chose qui se met en place.
Je vais vous lire un petit passage, et après le passage, on passera une musique que Jean-Pierre apprécie, et c'est à sa demande que cette musique-là que l'on va passer. Je ne vous donne pas tout de suite le titre, et je vous laisse deviner, et une fois que vous aurez écouté, on discutera, et je vous dirai ce que c'est. Je suis persuadée que vous allez reconnaître tout seul, chers auditeurs. Je vous lis un petit passage où justement Cano raconte ce qu'il voit sur Arte, parce qu'il faut savoir que Cano ne regardait jamais la télé. Pour lui, Arte, c'est exceptionnel, donc il regarde des émissions sur Arte, notamment cette émission-là, qui est une émission qui montre les conditions de vie dans une espèce d'hôpital, dans la ville de Zurvan, qui est en Russie. Puis il faut se séparer, commencer les inspections. Andrei et Léonide montent l'escalier de fer qui mène aux étages supérieurs. En réalité, le bâtiment est construit comme une ancienne prison. Des coursives latérales qui se rejoignent au centre pour accéder à un seul escalier central. Sur les coursives débouchent les grandes salles. Chacune compte une vingtaine de lits, plus la babouchka de service qui dort dans un coin. Toujours à côté d'elle, le samovar fume en solitaire. Au passage, Andrei et Léonide poussent des portes. Sous la pression, le mince fil qui tient au piton lâche. Alors les battants volent et la vingtaine de visages défaits se détournent dans un bel ensemble vers cette nouvelle tâche de bruit et de lumière. La babouchka toujours en profite pour dire quelques mots, réclamer ceci ou cela, toujours des trucs de bonne femme fatigante. Malgré leur âge, Léonide regarde ces vieilles-là avec un drôle de sourire dans la lèvre. Andrei, lui, ne dit rien, ou alors qu'il faut attendre les médecins. Les fous, eux, ne parlent pas. Ils sont pour la plupart assis sur leur lit et l'on croirait voir de jeunes enfants sages, attentifs à la leçon d'une maîtresse d'école. André s'étonne toujours de cette apparente sagesse. Que comprennent-ils de ce monde? Savent-ils seulement qu'une nouvelle journée vient de commencer? André se contente de hausser les épaules. Il remarque encore les bouteilles vides de la nuit. Les revendeurs sont de plus en plus acharnés. Bientôt, l'hôpital de Zurvan ne sera plus qu'un énorme alambic. Léonide dit qu'il va devoir quitter Andréi pour aller voir au troisième. Andréi le laisse et le regarde monter tranquillement l'escalier de fer. À la main de Léonide se balance un paquet de papier brun retenu par une ficelle. Son petit trafic de la matinée, l'étouffoir de ses passions. Un doux bruit descend du second étage et remplit les coursives. C'est le joueur d'accordéon qui, comme chaque matin, va enchaîner pendant près de 2 heures toutes les mélodies de sa jeunesse. Il joue comme ça, à l'instinct, sans partition et sans jamais se tromper. On l'installe dans le coin d'une salle, quelques malades font le cercle et il démarre sa complainte. Les yeux fermés, ses doigts reconnaissant les touches, le soufflet se gonfle, se ferme, ainsi tout le monde respire et se nourrit du même air. Andréi a rejoint le groupe. À son arrivée, la babouchka a souri et s'est affairée pour tendre un verre de thé.
Thank you.
je l'ai situé en Russie.
Merci. On va en venir au centre du roman, parce que pour moi, il y a ça, il y a la noirceur du début, qui continue avec l'hôpital, avec la rupture dont vous parlez, et puis au centre, il y a la lumière. Et qu'est-ce que c'est la lumière? Eh bien, ce sont les femmes. Alors, il y a plusieurs passages, moi, on pourrait découper le roman autre chose, c'est ma façon singulière à moi, Noura, après ma lecture, de voir ce qui m'intéresse dans votre roman, enfin de repérer, d'avoir mes propres points de repère. D'autres pourraient le découper de manière différente, peut-être certainement beaucoup plus pertinente, mais voilà, moi c'est ça. Il y a cette noirceur et puis il y a cette luminosité, alors j'ai comparé un peu à l'étranger d'Albert Camus, parce que pour ceux qui ont lu à l'étranger d'Albert Camus, c'est un roman noir également, il y a la mort d'une femme, la mère du héros principal, et puis il y a cette accusation qui lui est portée contre lui, qu'il aurait assassiné sa... Il y a le décès de sa maman, et puis après, il y a cette accusation qui est portée contre lui d'avoir assassiné un Algérien. Donc, je ne vais pas faire l'analyse du roman de Camus ici, qui est assez complexe, qui éclaire beaucoup sur le rapport franco-algérien de l'époque de l'Algérie française. On pourra faire une émission dessus si nos auditeurs le souhaitent. Dans ce livre, il y a beaucoup de noirceur. Il est condamné à mort, hein, il est quand même guillotiné pour l'exemple. Et puis il y a la mort de l'Algérien, il y a la mort de sa mère, et puis au milieu, il y a la mère, et la mère, et c'est Marie, Marie, Stella Maris, l'étoile de la mer, et cette femme qu'il fréquente avant de se faire arrêter, qui est lumineuse. Il va à la plage avec elle, elle a un maillot de bain blanc, elle est lumineuse, c'est la lumière. Dans votre livre, c'est pareil. La femme, à ce moment du roman, un peu moins après, parce qu'après, elle l'est un peu moins, du moins pour moi, mais à ce moment du roman, pour moi, c'est le milieu du roman, si on reprend l'architecture de Ramon Zolan, de cela, il y a toujours un summum, un moment où on est en haut, qui, comme Gervaise avec son grand banquet dans l'Assommoir, on est au centre du roman, on est au fait de la réussite, et là, la femme, c'est comme si Cano se réveillait, après avoir vu tant de morbidité et tant d'horreur, il voit la lumière, et la lumière c'est la femme. Donc il y a d'abord les seins de cette jeune femme que j'ai repérée, parce que à l'hôpital, au centre de moyen séjour, il y a une femme et sa fille qui vivent dans une situation de grande précarité, qui se retrouvent au moyen séjour, et donc la femme a l'habitude visiblement de vendre sa fille pour presque rien, pour pouvoir manger. Cette jeune femme a l'air complètement abétie, et elle montre ses seins. Alors c'est déjà ça, il en parle, Cano. Bon, Cano bien entendu ne souhaite pas se plier aux avances de la mère pour sa fille, avec sa fille, mais on sent qu'il y a cette image-là d'une femme jeune et de sa poitrine qui est dévoilée. Et puis il y a d'autres femmes, à chaque fois elles sont lumineuses, ces femmes, on dirait que c'est comme s'il y avait le paradis qui s'ouvrait dès qu'il voyait une femme. Alors il y en a une qui est dangereuse, c'est celle qui est médecin, qui est très intelligente. On sent que ce que Cano attend d'une femme, c'est d'être belle, mais pas trop intelligente. Il faut qu'elle soit à sa hauteur, il faut qu'elle soit fragile. Et puis après, il y a cette fameuse assistante sociale qui, elle, n'est pas trop intelligente, et puis qui est très belle. Et donc, on le voit, elle a un regard, elle a les yeux bleus, elle est lumineuse aussi. Il décrit chacune de ses tenues à chaque fois qu'il la voit. Pour lui, c'est ça qui est important, avec les quelques mots et gestes échangés. Et il va l'appeler ma tsarine à moi. Et d'ailleurs, je ne me souviens plus du prénom, j'ai un trou de mémoire.
Alors, en réalité, quand il rencontre, contre Cano, rencontre physiquement cette femme, là on est vraiment dans la dimension du moyen séjour, ben, cette femme est une assistante sociale. Enfin, tout au moins, c'est comme ça qu'elle se présente à lui. Et elle se présente à lui tout simplement pour étudier son cas de SDF ayant une jambe cassée et ayant besoin quelque part d'une assistance médicale. Et lui, en échange, dès le départ, ébloui par cette beauté, parce que c'est une très belle femme, il l'appelle Darling. Voilà. Alors, à la fin du roman, on comprendra que naturellement Darling, c'est pas son prénom. Le vrai prénom de Darling, c'est Marthe. Ok. Et j'ai choisi ce prénom Marthe à cause de ce prénom de fourrure. La Marthe est une très belle fourrure, et Cano en parle d'ailleurs, puisqu'il dit que l'intimité lui a permis de découvrir la fourrure de son prénom. Il parle de Marthe. Et donc, si on revient sur Darling, Cano l'appelle Darling tout simplement, je dirais presque, pour se protéger quelque part de la femme. Vous savez, ça rejoint un peu... Il y a un très bel écrivain qui s'appelle Nabokov, qui a inventé un fabuleux prénom, c'est le prénom de Lolita. Bon, et c'est d'ailleurs aujourd'hui, Lolita est un générique qui est passé dans le standard culturel d'aujourd'hui. Et Darling a à peu près cette consonance. Darling est une invention purement masculine. Darling comporte un idéal et en même temps une dimension que l'homme admet dès le départ de ne pas pouvoir atteindre. Darling est par définition la femme qui est belle, mais aussi la femme qui est supérieure, la femme qui est, je dirais, presque dans l'absolu. Et c'est la raison pour laquelle il la situe comme ça. Il estime, et il le croit très très sincèrement, Cano estime qu'en appelant cette assistante sociale Darling, qu'il se protégera d'elle-même et de ce que Darling peut inspirer en positif à travers son amabilité, sa sincérité, mais aussi parfois un petit peu dans un côté dangereux. Vous savez, une femme qui est trop belle, c'est toujours un petit côté dangereux pour un homme.
Très bien. Cette Darling, au début, alors elle paraît tout à fait positive. Non seulement elle est lumineuse, mais en plus elle va s'occuper de lui. C'est un petit peu la maman, quelque part. Elle joue aussi le rôle de maman, de cet homme qui a vécu des choses pas drôles.
Et oui, c'est vrai, parce que bon, on en revient sur Cano. Cano, un SDF, il a rien. Voilà, il a tout perdu. Voilà. Même sa vie ne lui appartient plus. Alors il y a cet accident qui ne fait pas au départ, qui ne va pas dans le bon sens, qui ne va pas arranger les choses. Et puis il y a cette femme, cette fameuse Darling qui apparaît. Et Darling tout d'un coup s'intéresse à ce monsieur. Elle s'intéresse à lui parce que Cano a quand même une culture, a quand même un passé, une histoire, il a fait des études de médecine. Et tout d'un coup ça intéresse Darling d'une manière tout à fait captivante, elle est même presque envoûtée, voire omnibulée. Par cette histoire d'études de médecine, Darling naturellement est peut-être moins Darling que l'on l'imagine, et Darling a un petit secret, un gros secret pourrait-on dire, que Cano d'ailleurs finira sans doute par découvrir dans les pages qui suivent. Et donc Darling, dès le début, va prendre avec Cano une allure de confidente, lui qui ne parle jamais, il va lui raconter les choses, il va lui raconter sa vie, il va lui raconter ses galères, ses travers, ses chemins sur la route. Et puis Darling ira un petit peu plus loin, elle va l'assister, elle va l'obliger à se vêtir autrement, à prendre soin de lui. Darling, c'est effectivement la mère qui fait renaître Cano de ce qu'il n'était plus, et qui redevient quelque chose, pourrait-on dire, de presque crédible.
Et alors, d'un coup, ça devient un conte de fées, la vie de Cano, puisque après cette découverte, qu'ils se soient un peu découverts tous les deux, l'assistante sociale, Marthe, l'amène chez lui, elle le fait partager sa vie. Donc il vit dans une maison avec un jardin, il a tout ce qu'il veut, il est dans la lumière, ça paraît presque trop beau, on aurait pu s'arrêter là.
Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, il faut bien comprendre qu'à travers tout cela, notre fameuse Darling tire un peu les ficelles quand même, d'accord ? Alors elle lui a donné des vêtements propres, elle l'a obligé à une certaine discipline, à oublier certaines mauvaises habitudes, ok, très bien, et surtout au final, alors que la jambe va de mieux en mieux, elle va lui proposer du travail, ce qui est vraiment absolument magnifique, c'est vraiment le tremplin pour repartir vers... une nouvelle vie peut-être, un nouveau départ. Et Cano a ce réflexe, qui est un réflexe de protection, d'ultime méfiance, en disant « Oui, darling, bien sûr, le travail, mais il faut autre chose pour avoir du travail. Il faut avoir un logement pour travailler. Moi, je vis dans la rue, donc grande difficulté. » Et c'est là que darling devient absolument absolue et magique, puisqu'elle va non seulement lui proposer du travail, mais aussi un hébergement. Et pas n'importe quel hébergement, puisqu'il s'agit de venir habiter chez elle. Avec une chambre, avec un confort, avec un jardin, et avec une petite cabane au fond du jardin.
Et alors, Jean-Pierre ?
Et alors, l'histoire de la petite cabane ?
Oui.
Ah ben, dans la cabane, n'oubliez pas, chers auditeurs, que Cano a fait des études de médecine. Et dans la cabane, il se passe des choses, voilà. Et Darling demandera à Cano, en lui expliquant qu'elle aura besoin de lui certains soirs dans la cabane, voilà. Et donc Cano, désarmé et totalement impuissant devant cette grandeur que représente Darling, finira par accepter, avec malgré tout une certaine dimension, je dirais, de retenue. Alors, on pourrait dire que sur le fond, Cano restera un personnage honnête. Bon, même si sur la forme, ça prend parfois des tournures un peu singulières, et que la théorie de Darling, qui est une théorie assez exceptionnelle, puisque elle prétend dans un passage du livre, lorsqu'elle est presque dans la phase de séduction de Cano, elle prétend tout simplement vouloir, pouvoir et savoir enterrer la misère. Naturellement, Cano, qui a quand même une intelligence évidente, se doute bien que cette volonté d'enterrer la misère, même si la dimension paraît absolue, est totalement impossible. La misère existera toujours. Et si Darling veut enterrer la misère, il ne peut s'agir que d'autre chose. Prenez les dictionnaires de la langue française et vous verrez que le mot « enterrer » peut avoir différents sens.
Voilà. Donc en fait, nos auditeurs l'auront compris, Marthe en fait est une femme qui a dû être blessée. Elle éprouve le besoin de se sentir maîtresse et de dominer les hommes. Et donc en fait, elle se sert de son métier pour attirer des SDF chez elle, pour avoir des relations avec eux dans sa cabane, et ensuite elle les tue, en leur plantant un couteau dans le cœur, hein, c'est ça?
Oui, voilà, c'est ça. On pourrait résumer ça comme ça. Elle les tue, et encore faut-il après se débarrasser de ce qu'on a tué, peut-être se débarrasser de ce qu'on appelle la misère, en fin de compte. Peut-être que la misère de Marthe, c'est pas la misère que l'on voit, mais c'est la misère qui traîne sur un sol de cabane à 3h du matin, après certaines actions commises par les uns et par les autres. Et effectivement, le roman, en fin de compte, bascule à cet endroit-là, et là où on aurait pu y voir une forme de lueur, une forme d'espoir.
Une forme de rédemption.
Oui, une forme de rédemption.
De la misère.
Voilà. Tout à fait. Ben, on rebascule vers une autre dimension. Il aurait mieux valu que jamais Cano ne se fasse casser la jambe.
Tout à fait. On est dans le domaine du possible. Et lui, il est tombé dans ce scénario-là où il se retrouve à faire disparaître des cadavres. Et à les enterrer. On a parlé de la misère. Jean-Pierre, il y a un passage qui est intéressant aussi dans ce livre, puisque vous soulignez un problème social qui est contemporain et qui est particulièrement, qui se pose depuis plus de 20 ans, j'allais même presque dire 30, mais d'une manière très cruciale et très importante depuis au moins 20 ans, et qu'on n'a toujours pas réglé, c'est celui des sans-domicile fixe. Et c'est celui de la pauvreté. À une époque, on aurait les moyens de faire en sorte que la pauvreté disparaisse. On ne fait rien contre. Le passage que je vais lire est très intéressant parce qu'il parle de Pénélope. Pénélope, c'est une association. Il y a encore une femme, Pénélope. Pénélope, c'est le mythe, c'est la femme qui attend.
Il y a quelque chose derrière. Je peux plus m'en parler ?
Oui, bien sûr, oui. Oui, parce que j'ai expliqué tout à l'heure que Darling proposait à Cano du travail. C'est fabuleux, ok. Ben, le travail qu'elle lui propose, alors c'est un travail, on pourrait dire, tout simple, de manutentionnaire dans une association. N'oubliez pas qu'elle est assistante sociale. Et ses ouvertures sont avant tout tournées vers ce genre de structure. Elle lui propose donc un travail de manutentionnaire dans une association qui récupère des vêtements, comme beaucoup d'associations peuvent le faire de nos jours. Et cette association, j'ai voulu lui donner le nom de Pénélope. Alors pourquoi Pénélope ? Bah, tout simplement, tout le monde connaît l'histoire de Pénélope, et il y a un côté éternel, jamais abouti, toujours effacé, toujours recommencé, mais toujours avec une grande volonté et une grande puissance. Si l'on se met 30 secondes dans le mythe de Pénélope, à regarder, à essayer de comprendre cette femme qui démontait la nuit le travail qu'elle avait commis le jour, il faut quand même avoir une certaine constance dans les idées pour le faire. Or, certaines associations, et c'est ça que j'ai voulu démontrer à travers ce petit clin d'œil sur Pénélope, sont vraiment dans cette démarche. C'est un travail de fourmi, ok, probablement qui donne une impression de l'inutile dans l'immédiat, mais qui au final, de jour en jour, de semaine en semaine, arrive à aider, à apporter un minimum d'assistance à des gens qui sont dans un besoin absolu, voilà, tant côté vêtements que côté alimentaire, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce terme de Pénélope.
Merci beaucoup. Alors, je vous lis le passage. Définir la besogne de Pénélope est assez simple. Ce n'est qu'une double forme d'usure. D'un côté, l'usure de ce que l'on touche. Les vieux chiffons, les vieilles chemises, l'usure d'une vie, et de l'autre, l'usure de soi-même, la fatigue qui vous monte du bas, des jambes, des reins, et finit par vous remplir le cœur et la tête. Louis, le citroëniste, m'avait fait cadeau de la plus belle vacherie qu'il pouvait me donner. Triage et presse à chiffon. Imaginez un tas, une masse, énorme et confuse, de chiffons fringues en tout genre. C'est la collecte du mois qu'il faut réorganiser. On plonge les bras au cœur de la pyramide, on en ressort un kaléidoscope de couleurs et d'odeurs. Le linge des autres sent toujours un peu trop fort. Ça n'est pas lavé, pas encore, parfois c'est propre, souvent c'est sale. Ça doit être le règne du microbe, de l'acarien, et c'est sûr qu'au fond du tas, vieux de plusieurs semaines, ça vivote encore. L'apprentissage est simple. Puiser dans la manne, avoir l'œil critique de la qualité, je vous cite Louis Lecon. Ranger à droite le récupérable, jeter à gauche l'indéfini. Ça fait du 1 pour 10. Vous seriez étonné de voir la merde que l'on donne sous prétexte d'aider les pauvres. La gauche merdant plus vite que la droite, politique irrécupérable, il faut s'occuper de la presse. C'est une machine à vous faire peur, un caisson stupide qu'il faut remplir de ses linges déchus, une trappe tordue que l'on referme par décence, un bouton rouge et sournois que l'on manipule par soulagement. Ça fait un bruit d'hydraulique, une odeur d'huile chaude, et ça vous garrotte le linge en un paquet rigolo, multicolore et très lourd. Voilà. On va terminer avec cette parole-là. Jean-Pierre, je te remercie d'avoir bien voulu faire cette émission avec moi. Et je souhaite, comme nous l'avons dit, qu'on puisse en faire une autre sur un prochain roman, qui sera certainement très différent de celui-ci. Totem Misère est un roman qui interpelle. Édition Victor Gaspard. Victor Gaspard, vous retrouvez Jean-Pierre devant les halles du Boulingrin tous les samedis matins, avec son stand, il discute avec vous, il y a tous ces livres qui sont exposés. Ou alors, peut-être que Jean-Pierre, tu peux nous donner une adresse mail.
Oui, bien sûr, oui, voilà. Mon adresse mail est toute simple, J comme Jean, P comme Pierre. Les quatre premières lettres de mon patronyme, HELS@hotmail.com.
Merci beaucoup Jean-Pierre, je te laisse dire au revoir à nos auditeurs.
Eh bien, merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés si longuement, et peut-être parfois dans le détail, peut-être avec trop de détails, mais toujours avec une immense passion.
Merci à tous, à la semaine prochaine, et bonne semaine à chacun.